Bon, plantons un peu le décor pour commencer. Imaginons la scène. On est assis à une table, le silence est lourd dans la salle, il y a...
La fameuse horloge qui tourne au fond, c'est ça?
Ouais, exactement. Il y a cette horloge qui tourne quelque part, et on fixe une copie totalement blanche. Et là, c'est l'emballement physique total.
Ah bah oui, le cœur qui frappe contre les côtes, les mains moites.
C'est ça, la respiration qui devient hyper courte. Enfin, face à un enjeu majeur, que ce soit un examen crucial pour entrer dans la fonction publique, ou je sais pas, la validation de plusieurs années d'études, la réaction quasi universelle, c'est vraiment de paniquer face à sa propre panique, quoi.
Tout à fait.
On a cette idée très ancrée en nous que ce stress, c'est une sorte d'anomalie biologique, un ennemi mortel qu'il faut absolument éradiquer, sinon on va perdre tous ses moyens.
Ouais, mais en fait, cette idée, elle repose sur un fantasme vraiment tenace, celui du candidat idéal qui serait une sorte de machine de calcul hyper froide, tu vois?
Ouais, le robot, quoi.
C'est ça, un truc complètement détaché de toute émotion. La perception commune, c'est de se dire que le calme plat, bah, c'est la condition absolue pour performer, comme si l'absence de réaction physiologique, ça garantissait une clarté mentale supérieure.
D'accord.
Sauf que, d'un point de vue purement neurologique, c'est une aberration totale.
Et c'est justement le cœur de notre exploration aujourd'hui. En se plongeant dans des travaux d'expertise, qui sont issus de plus de 20 ans d'accompagnement de candidats à des concours vraiment exigeants, bah on découvre un changement de paradigme radical.
Ouais, complètement.
Le stress, c'est pas du tout l'élément qui provoque l'échec. En fait, l'échec, il vient d'une incapacité à métaboliser cette réaction.
C'est exactement ça.
Donc la mission de notre analyse aujourd'hui, c'est de décortiquer les mécanismes biologiques et psychologiques de cette montée d'adrénaline. Le but, c'est de comprendre comment la transformer en un véritable atout. Et pour commencer, je crois qu'il faut vraiment déconstruire cette fameuse illusion du zéro stress, non?
Carrément. Et le meilleur moyen d'illustrer ça, c'est de se pencher sur un modèle psychologique fondamental. C'est la courbe de Yerkes-Dodson.
Ok.
Concrètement, il faut visualiser une courbe en forme de U inversée. L'axe horizontal, ça représente le niveau de stress, et l'axe vertical, c'est le niveau de performance.
Ok, je la visualise.
Voilà, ici on se place tout à gauche de cette courbe, donc dans la zone du fameux zéro stress. Ben, on ne trouve pas du tout des génies hyper concentrés.
Non, non, oui.
Non, on trouve l'apathie. Parce que, en fait, le cerveau humain, il fonctionne un peu à l'économie. S'il n'y a pas d'hormone de stress pour lui signaler qu'une situation est importante ou vitale, bah il mobilise rien.
Ah ouais, il reste en veille.
C'est ça, ni la mémoire ni la concentration. Le corps, il ressent pas d'urgence, quoi.
C'est fou. Moi, j'aime beaucoup utiliser la métaphore d'une corde de guitare pour visualiser cette courbe de Yerkes-Dodson. Parce que c'est le même principe physique au final.
Ah oui, c'est une très bonne image.
Si la corde elle est complètement lâche, sans aucune tension, on a beau la gratter avec toute la technique du monde, elle va juste produire un bruit sourd et plat. C'est l'apathie de la gauche de la courbe dont tu parlais. Mais à l'inverse, si on tourne la clé d'accordage à l'extrême, genre tout à droite de la courbe,
Bah là, la corde finit par claquer, forcément.
voilà.
Et sur le plan cognitif, c'est pareil. C'est l'excès de cortisol qui vient littéralement inonder le cortex préfrontal. C'est à ce moment-là qu'on observe les trous de mémoire massifs et la paralysie, quoi.
L'horreur absolue le jour de l'examen.
Exactement. L'information, elle est bien stockée dans le cerveau, hein, mais le chemin d'accès, il est chimiquement bloqué par la panique. En fait, la zone visée, le sommet du fameux U inversé, c'est l'état d'alerte optimal.
Ok.
C'est ce moment précis où ta corde de guitare, elle a la tension vraiment millimétrée pour entrer en résonance. Les sens sont aiguisés, la mémoire de travail, elle est hyper réactive. En clair, il n'y a pas de haute performance possible sans une dose de stress pour l'alimenter.
Donc toute la difficulté, ça consiste à maintenir cette tension parfaite sans basculer dans la rupture, quoi.
Voilà, c'est tout l'enjeu.
Et quand on a des mois de préparation devant soi, pour un concours de rédacteur, de technicien ou, je sais pas, d'assistant socio-éducatif, bah, on ne peut pas juste improviser cet équilibre. Ce qui est fascinant dans l'approche de nos sources, c'est qu'elle structure la préparation en deux temps très distincts.
Ouais, une approche à deux vitesses.
C'est ça. On a d'abord une routine quotidienne recommandée, à bâtir vraiment sur le long terme, et ensuite un planning tactique hyper précis pour les 3 derniers jours. Mais avant d'arriver au jour J, regardons d'abord cette fameuse routine quotidienne.
Eh bien, la première étape pour bâtir cette routine, c'est déjà de comprendre que le stress, en fait, ça fonctionne comme un cycle biologique. C'est pas un état statique.
D'accord.
Ça démarre toujours avec un déclencheur, par exemple, juste la simple pensée de la date de l'examen. Là, l'amygdale dans ton cerveau, elle perçoit une menace et elle déclenche une activation physique.
Le rythme cardiaque qui s'accélère, tout ça ?
Exactement, pour envoyer du sang dans les muscles. Ensuite, ça dicte un comportement, donc on va s'agiter, procrastiner ou même fuir. Et si ce cycle, il tourne en boucle sans jamais être interrompu, on atterrit direct dans la phase d'épuisement chronique.
Avec la chute du système immunitaire et la grosse fatigue, j'imagine.
C'est ça, une fatigue vraiment profonde.
Donc le piège absolu, c'est d'être passif et de laisser la boucle tourner jusqu'à l'effondrement. Il faut intervenir bien en amont. Et c'est là qu'intervient le premier des trois leviers de cette routine recommandée. Et franchement, je dois dire que c'est l'aspect qui bouleverse le plus nos intuitions.
C'est clair.
Quand on sent l'anxiété monter, notre réflexe humain numéro un, c'est la suppression. On se dit tous « Bon, il faut que je me calme, je dois surtout pas penser à l'échec. » Or, d'après les sources, combattre la peur comme ça, c'est le meilleur moyen de la nourrir.
Ouais, et c'est ce que la psychologie clinique démontre très clairement, notamment à travers ce qu'on appelle la thérapie d'acceptation et d'engagement, ou l'approche ACT.
L'approche ACT, d'accord.
Voilà. En fait, supprimer une pensée, ça demande un effort cognitif énorme. Et surtout, c'est le serpent qui se mord la queue. Si on envoie au cerveau le message qu'il faut absolument combattre une émotion, le cerveau en déduit que cette émotion, c'est un vrai danger de mort.
Ah oui, logique.
Donc, qu'est-ce qu'il fait ? Il relâche encore plus de cortisol pour nous aider à combattre ce faux danger. L'alternative, c'est l'acceptation active. La formulation qui est proposée dans les travaux, elle est vraiment hyper puissante. C'est de se dire « j'ai peur, c'est normal, c'est mon corps qui se prépare, je fais mon travail quand même ».
Je fais mon travail quand même, c'est génial. En gros, on valide la physiologie sans lui donner le volant. On s'autorise à trembler un peu tout en ouvrant son classeur de révision, quoi.
Exactement ça.
Et biologiquement, le simple fait de cesser cette espèce de lutte interne, ça signale au cerveau que la menace, elle n'est pas si immédiate que ça. Ce qui fait chuter l'intensité du stress. Mais bon, l'acceptation interne, ça ne suffit pas toujours.
Non, c'est sûr.
Ce qui nous amène au deuxième levier de cette routine, qui aborde un aspect souvent balayé d'un revers de la main par les candidats. C'est le filet de sécurité sociale. Il y a un peu ce mythe du candidat A7, tu sais, qui s'enferme dans une bulle hermétique pendant 6 mois pour avaler ses fiches.
Ah oui, le fameux ermite des révisions. Sauf que l'isolement, c'est un amplificateur d'anxiété hyper puissant. En fait, ce qui fait vraiment la différence chez les candidats qui réussissent, c'est pas du tout une résilience innée, c'est leur capacité à verbaliser.
À en parler aux autres, donc.
Ouais. S'intégrer dans des groupes de préparation ou juste échanger avec des pairs, ça permet de rationaliser les peurs. Le cerveau humain, il a vachement tendance à catastrophiser quand il est tout seul avec une information.
Ah oui, ça c'est sûr. On se fait des films pas possibles.
Voilà. Alors que le simple fait d'entendre un autre candidat exprimer exactement les mêmes doutes que soi, ça remet la menace en perspective. Ce soutien social, il modifie concrètement la façon dont le cerveau perçoit le risque. Et ça entraîne une amélioration qui est mesurable au niveau des capacités d'apprentissage et de restitution.
C'est fou l'impact du groupe. Mais bon, même si on accepte sa peur, qu'on verbalise ses doutes avec d'autres candidats, la chimie du corps, elle a quand même ses propres règles. Si on est littéralement inondé d'hormones de stress à longueur de journée, la psychologie, elle trouve ses limites.
Complètement.
Et c'est là que la biologie pure doit prendre le relais, avec le troisième levier, l'hygiène de vie structurée. Et là, je dois te faire une petite confession.
Vas-y, je t'écoute.
Quand j'entends bien dormir, faire du sport et manger équilibré, j'ai toujours l'impression d'entendre des platitudes parentales, quoi. On cherche toujours un petit hack secret pour booster sa mémoire. Alors pourquoi ces conseils-là, ils reviennent systématiquement avec une telle intransigeance dans les sources ?
Tout simplement parce qu'il n'y a aucun hack psychologique qui puisse vaincre une défaillance métabolique. En fait, ces recommandations, ce n'est pas des petites options de bien-être. Hein. Ce sont de vrais protocoles de régulation hormonale.
Ok, c'est plus sérieux que ça, on a l'air.
Totalement. L'objectif unique de ce troisième levier, c'est vraiment de forcer la baisse du cortisol sanguin. Si on prend la marche rapide, par exemple, qui est recommandée à raison de 30 minutes 3 fois par semaine, le but, c'est pas de préparer les Jeux Olympiques, hein.
Ouf, ça me rassure.
Le but, il est purement mécanique. Cette activité physique modérée, elle active la circulation et elle va forcer le foie et les reins à filtrer et à métaboliser les résidus d'hormones de stress qui stagnent dans le sang. En gros, c'est une vraie vidange chimique.
Ah ouais, une vidange chimique, c'est une super image. Ce qui explique aussi pourquoi la gestion du sommeil, c'est totalement non négociable. Dormir 7 à 8 heures à des horaires fixes, c'est le seul moment où le cerveau il peut consolider les infos acquises pendant la journée pour les passer dans la mémoire à long terme.
Exactement.
Mais il y a un truc qui m'a encore plus interpellé dans ces règles. C'est la restriction stricte des sucres raffinés. J'avoue que j'ai toujours cru, à tort visiblement, qu'un bon apport en sucre, ça a aidé le cerveau à tenir le coup pendant les grosses sessions de révision.
Ah bah oui, l'effet à court terme, il est super trompeur en fait. Un apport en sucre raffiné, ça crée un pic glycémique immédiat, mais qui est suivi d'une chute brutale. Et pour compenser cette chute, le pancréas libère massivement de l'insuline.
Le fameux coup de barre.
C'est ça. Et ce grand 8 hormonal, ça provoque des sueurs froides, une légère accélération cardiaque, des tremblements.
Attends, mais ça correspond trait pour trait aux symptômes physiques d'une crise d'angoisse, ça, non ?
Mais exactement. Et le cerveau, il perçoit ces signes corporels et il en déduit tout de suite qu'il y a une bonne raison de paniquer. Ce qui déclenche un vrai stress psychologique, tout ça à partir d'une simple variation de sucre.
C'est incroyable ! On s'auto-sabote chimiquement sans même s'en rendre compte. Et c'est la même chose pour la caféine après 14 heures, j'imagine ?
Ouais. Ça maintient le système nerveux sympathique, donc celui de l'alerte activé de façon artificielle, et ça ruine les cycles de sommeil profond la nuit d'après.
C'est terrible. Et donc, en couplant toutes ces règles avec apparemment juste 10 minutes de méditation quotidienne pour habituer l'esprit à se recentrer, on crée une sorte d'armure physiologique super robuste.
Tout à fait.
Donc ça, c'est pour la première grande partie, la routine des trois leviers. C'est vraiment le travail de fond, les fondations de la maison. Mais inévitablement, le calendrier avance et quand on arrive à quelques jours de l'examen, le déclencheur devient imminent et la biologie, elle finit par prendre le dessus.
Ah oui, c'est sûr.
Ce qui nous amène à la seconde grande partie de notre analyse, la gestion tactique des trois derniers jours, le fameux planning pré-examen.
À ce stade, la stratégie de long terme, elle suffit plus. La proximité de l'événement, elle modifie complètement la donne cognitive. Le protocole bascule sur un vrai compte à rebours spécifique pour éviter de détruire les mois de préparation précédents. L'enjeu, c'est plus d'apprendre des trucs nouveaux, mais c'est vraiment de protéger ce qui est déjà acquis.
Ok, donc le sprint final, il commence à J3. D'après le texte, la recommandation ici, c'est de passer au repos actif et aux révisions hyper légères. On arrête de creuser des concepts complexes qui pourraient générer de la frustration.
Ouais, on survole, on consolide quoi.
Voilà, et on continue à bouger son corps pour évacuer la tension. Ensuite, à J2, là, le rythme change drastiquement. L'objectif, ça devient la relaxation pure et simple. On impose au cerveau de penser à autre chose, avec un coucher super précoce, genre vers 22 heures, pour accumuler une bonne réserve d'heures de sommeil profond.
C'est ça.
Mais c'est à J1 que la consigne devient radicale. Et franchement, je trouve ça dingue. L'interdiction absolue d'ouvrir un classeur ou de réviser. Et là, soyons très honnêtes, c'est terrifiant comme idée. Avoir l'impression de ne rien faire la veille d'un examen majeur, ça ressemble presque à un abandon, non ?
Ah, c'est très contre-intuitif, ouais.
Si on s'arrête, on a vraiment l'impression viscérale qu'on va oublier des détails cruciaux. Pourquoi est-ce qu'on s'interdit de combler une dernière petite lacune la veille ?
En fait, c'est pour une raison purement anatomique qui est liée à la mémoire de travail. Pour imager, ta mémoire de travail, c'est comme un petit entonnoir qui traite les infos nouvelles avant de les envoyer vers la mémoire à long terme, qui, elle, est le grand réservoir.
Ok, je vois bien l'entonnoir.
À 24 heures d'un examen, cet entonnoir, il est déjà soumis à une pression extrême à cause de l'anticipation et du stress. Si tu tentes de forcer de nouvelles révisions là-dedans ou de relire frénétiquement tes fiches, tu vas juste créer une surcharge cognitive massive.
Ah ouais. En gros, on pousse notre fameuse courbe de Yerkes-Dodson dont on parlait tout à l'heure directement dans la zone rouge.
Exactement. C'est l'inverse de l'effet recherché. Le cerveau est saturé, la confusion s'installe et de toute façon, il n'y a matériellement plus le temps de consolider ces nouvelles infos par un cycle de sommeil suffisant. Relire la veille, en fait, ça fait que raviver le sentiment d'incompétence devant la taille immense du programme.
C'est tellement vrai.
Le J-1, il doit vraiment être sanctuarisé pour deux actions très précises. La visualisation positive pour programmer des associations neuronales rassurantes et l'hygiène du sommeil. Il faut mettre le cortex au repos pour qu'il soit 100% disponible le lendemain.
Nous voici donc au matin fatidique, le fameux jour J. On se réveille, on essaie de garder un petit ancrage dans la normalité avec son petit déjeuner habituel et on se retrouve enfin face à cette copie blanche de notre scène d'ouverture.
Le moment de vérité.
Voilà. À cet instant très précis, la montée d'adrénaline, elle est inévitable. Les mains tremblent, il n'y a rien à faire. Face à cette activation physique instantanée, la pensée positive, on est d'accord qu'elle suffit plus du tout.
Non, là, il faut une action mécanique immédiate. Et l'outil décrit dans les travaux, il est d'une efficacité redoutable, parce qu'il va venir court-circuiter la panique physiquement.
Ok, c'est quoi le secret, Evelyne ?
c'est l'activation délibérée du système nerveux parasympathique. Pour faire super simple, notre corps, il a une pédale d'accélérateur, le système sympathique, qui produit le stress et l'envie de fuir. Et il y a une pédale de frein, le système parasympathique, qui ralentit le cœur et ramène le calme.
Et on appuie comment sur ce frein ?
L'un des seuls moyens conscients d'appuyer dessus, c'est d'utiliser le nerf vague à travers la respiration. Le protocole, il est carrément mathématique. Tu inspires lentement pendant 5 secondes, puis tu expires très lentement pendant 5 secondes.
D'accord. Donc en allongeant consciemment l'expiration, comme ça, on stimule mécaniquement ce nerf vague. Le cerveau reçoit un message biologique super clair, genre « bon, si les poumons se vident aussi calmement, c'est qu'il n'y a pas de tigre à dents de sabre prêt à nous sauter dessus dans la pièce ».
C'est exactement ça, l'image est parfaite. Le rythme cardiaque, il est forcé de ralentir, la tension sur la corde de guitare dont tu parlais, elle diminue, et on redescend sagement dans la zone verte de performance.
C'est puissant! Mais attention, pour que cette manœuvre de la dernière chance fonctionne le jour J, il faut impérativement avoir évité les pièges fatals des 72 heures précédentes. Les sources listent vraiment une liste noire de comportements refuges qui ont l'air d'aider sur le moment, mais qui détruisent toute la physiologie.
Ouais, c'est des comportements qui sont en fait des tentatives désespérées d'automédication face à l'angoisse. Le premier, super répandu, c'est l'exposition aux écrans très tard le soir pour se changer les idées. La lumière bleue, elle bloque net la sécrétion de mélatonine. Et ça empêche le cerveau d'initier les phases réparatrices du sommeil.
C'est fatal.
Et le second piège, c'est la consommation de substances, comme l'alcool par exemple, pour tenter de trouver le sommeil plus facilement la veille.
Ah ça, prendre un verre d'alcool pour calmer son anxiété à J-1, en fait c'est exactement comme contracter un prêt avec un taux d'intérêt usuraire.
Ouais, c'est ça.
Ça soulage un peu le compte en banque neurologique, sur le moment, en assommant légèrement le système nerveux, ok. Mais on paie le double d'anxiété le lendemain matin à cause de l'effet rebond. Et en plus, on a un sommeil complètement fragmenté et pas du tout réparateur. C'est pas une solution, c'est une hypothèque sur ses propres capacités cognitives.
C'est une parfaite illustration. Le système nerveux, il doit vraiment être traité avec un soin extrême dans cette dernière ligne droite. Toute altération chimique artificielle, elle va se payer au prix fort le matin de l'épreuve.
Bon, alors, si on rassemble toutes ces pièces, de l'acceptation initiale de la peur jusqu'à cette respiration calibrée, sur 5 secondes, le message fondamental qui se dégage, je le trouve d'une puissance hyper libératrice.
Ah oui, complètement.
Le stress, c'est en aucun cas une preuve d'incompétence. C'est pas une faille dans le système. C'est la preuve irréfutable, inscrite dans nos cellules, que l'on tient véritablement à l'objectif qu'on s'est fixé.
C'est beau de le voir comme ça.
La différence entre le candidat qui s'effondre et celui qui réussit, ça réside pas du tout dans une mutation génétique qui l'immuniserait contre la peur. Elle réside dans la mise en place d'un écosystème, d'une routine de vie et d'un bouclier tactique qui permettent d'utiliser cette énergie phénoménale au lieu de juste la subir.
C'est très bien résumé. Et d'ailleurs, cette redéfinition du stress, elle nous amène à une réflexion encore plus profonde pour terminer.
Ah, je t'écoute.
La biologie, elle nous montre clairement que l'anxiété, quand elle est bien gérée, c'est le moteur de l'engagement. C'est ce qui mobilise nos ressources face à ce qui compte vraiment pour nous. Ça soulève une question philosophique fascinante pour la suite. Si le stress, c'est le marqueur de l'importance qu'on accorde à un projet,
ouais.
Que faut-il déduire des situations de notre vie professionnelle ou personnelle où on ne ressent absolument plus la moindre palpitation, la moindre tension ? Si on se retrouve coincé tout à gauche de la courbe de Yerkes-Dodson, dans une espèce de zone de calme plat permanent, est-ce que c'est vraiment le signe d'une maîtrise absolue de notre environnement ?
Ouais.
Ou est-ce que c'est le symptôme d'une apathie, d'un désengagement profond ? Exactement, une perte totale de sens. Parfois, l'absence de tension sur la corde, ça devrait nous alarmer bien davantage que la peur elle-même. C'est vraiment une perspective qui invite à réévaluer non seulement nos moments de panique, mais aussi nos zones de confort les plus absolues.
C'est une excellente piste de réflexion pour clôturer cette analyse. Une vraie remise en question de ce qu'on appelle la zone de confort. Merci pour cette exploration passionnante, Sam.